Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de fin de séance. C'est Areski Sugar qui vous parle. Pour vous dire que je suis en spectacle actuellement au Théâtre Beau-Saint-Martin à Paris. Donc si vous voulez venir voir une superbe heure de stand-up, n'hésitez pas à prendre vos places. Il reste des places pour les trois dernières représentations de la saison. Le 15 juin, 28 juin et 12 juillet. N'hésitez pas à aller sur Bireduc ou suivre les liens depuis la description du podcast ou aller sur sugarfree.com. Merci à tous. Profitez bien de cet épisode. Bisous.
Après avoir enregistré justement l'épisode top 10 de l'année dernière. Et en fait, il y a beaucoup de films dont on a discuté où j'ai fait un peu le papy grincheux, tu vois. Et en fait, je me disais, c'est fou parce que je pense, et c'est là que je me dis, tu vois, la réception des films, il y a un truc aussi très, très immédiat dans l'état dans lequel t'es. Je pense qu'il y a certains de ces films, il y a genre même 2 ans, je les aurais peut-être aimés en fait, tu vois. Et je me demande ce qui fait que aujourd'hui, alors je sais pas si je suis devenu genre plus dogmatique sur ma définition de ce qu'est un bon film, tu vois, si je commence à limiter un petit peu le truc. Et ça m'a fait pas mal réfléchir sur ça. Et je sais pas trop quoi en penser. Je sais pas si ça vous arrive vous aussi, tu sais, de voir un film, de te dire, t'as ça, c'est un film il y a genre quelques années, j'aurais peut-être aimé. Et là, non. Vous voyez ce que je veux dire?
Écoute, moi je suis assez d'accord dans le sens où il y a forcément quelque chose d'assez naturel qui se fait selon les dispositions dans lesquelles tu te trouves pour quand tu regardes un film. Clairement, après je pense que là où c'est intéressant et ça vaudra le coup d'en discuter pour le film dont on va parler aujourd'hui, parce que clairement le film dont on a vu aujourd'hui, ça dépend, et c'est un film clairement où selon les dispositions ça peut énormément jouer, tu vois, ce style de film, et je suis assez d'accord, hein, c'est-à-dire que il y a plein de films, voilà, on les a vus, t'es de bonne humeur, t'es voilà, la vie en rose et tout, regarde, moi ça y est, je suis papa, maintenant je suis prêt à aimer tous les films que j'aime pas. Tu vois, je suis d'accord, je pense que clairement on est influencé par un
ce qu'il y a, c'est que j'ai l'impression, tu vois, dans tous les films il y a des qualités et des défauts, et selon l'état dans lequel tu peux plus ou moins voir les qualités ou plus ou moins oublier les défauts.
Ouais, tu
vois ce que je veux dire, il y a un truc comme ça quoi qui
à pardonner les défauts.
Ouais, c'est ça. Ouais.
C'est clair. Et puis le contexte va aussi déjà changer ton sentiment et ton a priori avant même de t'asseoir aussi devant le film. Comme tu disais.
Et parce que c'est un truc, tu vois, c'est vrai que dernièrement, même genre ces derniers mois particulièrement, c'est genre, je sais pas, 4-5 derniers mois, je trouve qu'il y a très peu de films qui m'ont plu vraiment en fait au cinéma. Je crois que c'est ça qui m'a fait un peu. Je suis peut-être chafouin en fait.
Tu es pour le diagnostic psychologique via la cinéphilie en fait. Ce serait pas mal en fait. Parce que genre ton psy, il pourrait te demander les notes de tes derniers films. Il va faire. Là, vous êtes quand même sur 10 films, vous avez mis moins que 3. Ça va pas en ce moment.
Il est particulièrement touché par tout un contexte et comment. Moi, le contexte qui me touche le plus pour ce film, c'est la saison des Oscars et qu'il est vraiment vendu comme un film d'Oscar. Et ça, déjà, je trouve que ça change ton œil sur le film.
Ça, c'est vrai. On le voit tous les ans dans la moisson des films un peu faits pour les Oscars. C'est vrai qu'on a souvent tendance à être plus sévère, sans doute, envers les.
Exactement.
Ouais.
Avec Gary Oldman qui donne tout ce qu'il a niveau maquillage pour décrocher l'Oscar, tu sais.
Je crois genre, qu'il utilise 50% du silicone qui est utilisé aux États-Unis. C'est Gary Oldman qui se le met sur sa figure.
Il y a une pénurie, hein. Il y a un an, on peut plus rien faire. Le tournage, c'était le moment de spéculer sur le
silicone. C'est ça. Les dentistes peuvent plus faire leur travail, c'est fini. Ouais, bah écoute, est-ce qu'on commence à parler du film ou est-ce que vous avez... Moi là, j'ai vraiment rien du tout, quoi. Mais enfin, ou alors je sais pas ce que je lisais avant et ce que je considérais comme des news. Maintenant, je le lis et je me dis oui, bon bah normal, ils vont faire un 2 de ce film, ils vont faire un 3 de ce film, quoi. En gros, c'est ça maintenant le news.
Ouais, c'est ça.
Donc je m'en fous complètement. Donc voilà. Donc on peut commencer à parler de Three Billboards s'il n'y a pas d'objection. Alors déjà, le titre original c'est Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. Ok. Qui est voilà dans la veine de ces titres longs avec un endroit. Moi j'aime bien quand c'est comme ça. Par contre en français, Three Billboards, virgule, les panneaux de la vengeance. Déjà. Déjà, je pense qu'il faut qu'on dézippe un peu ce titre. Déjà, on a mi-anglais, mi-français. Voilà, là, ça m'a fatigué, déjà, de base.
Et puis, le français hein, est trop idiot pour comprendre, c'est-à-dire que t'es obligé de lui spoiler un peu avec la vengeance, c'est-à-dire que
oui,
clairement,
alors,
c'est du spoil, je suis désolé.
Alors, et en voilà. plus... Alors, en plus, on va rentrer dans les thématiques, mais déjà, three, ils ont pas osé le mettre en toutes lettres, ils l'ont mis en chiffres, tu vois. Voilà. Et ensuite, les panneaux de la vengeance, je suis désolé, mais c'est pas vraiment de la vengeance qu'elle fait en plus.
Un petit peu quand même.
Ouais. Franchement, vengeance, je sais pas. En tout cas, c'est pas envers le chef Willoughby, mais bon, on va en parler. Et du coup, donc voilà, ce film réalisé par Martin McDonagh. Sorti le 17 janvier 2018 avec Frances McDormand, Woody Harrelson, Sam Rockwell entre autres, et noté dans les drames comédies. Après des mois sans que l'enquête sur la mort de sa fille ait avancé, Mildred Hayes prend les choses en main, affichant un message controversé visant le très respecté chef de la police sur trois grands panneaux à l'entrée de leur ville. Petit clip.
Mildred Hayes, why did you put up these billboards?
My daughter Angela was murdered 7 months ago. It seems to me the police department is too busy torturing black folks to solve actual crime.
The hell is this?
Alors, qu'est-ce que vous avez pensé de Three Billboards, Jean-Yves?
Alors déjà, je te rejoins un petit peu sur le coup de gueule traduction. Voilà, c'est un petit peu agaçant comme d'habitude. J'ai plutôt globalement passé un bon moment devant ce film, sachant en plus que je savais qu'il était un petit peu victime d'une overhype pré-Oscar et ça a pas trop influencé mon jugement, donc j'ai passé plutôt un bon moment. Dans ce que j'ai plutôt aimé l'ambiance parce que voilà ça se passe dans une petite ville à la limite du village quoi, donc j'ai bien aimé cette ambiance un petit peu villageoise qui rend le film un peu difficile à dater des fois hein. Tu sais, ça pourrait très bien se passer dans les années 90 comme dans les années 2010. Il y a un petit côté, le temps s'est arrêté dans cette vallée où il y a des trucs où on a des façons de communiquer à la limite désuètes quoi, avec le, on utilise des panneaux publicitaires qui deviennent un petit peu le social network de cette ville qui fonctionne à base de JT locaux, etc. Donc voilà, j'ai bien aimé cette ambiance-là, j'ai bien aimé ce qui va se passer, j'ai bien aimé le personnage de Woody Harrelson en shérif un petit peu bon daron de cette ville. J'ai bien aimé, même si je suis pas complètement convaincu par le dénouement sur le personnage, j'ai globalement vachement aimé le personnage de Sam Rockwell parce que j'adore cet acteur de base et j'aimerais vraiment le voir plus souvent. J'ai bien aimé aussi ce qui est exploité par l'espèce de terreau de haine qu'il y a dans ce village de, avec cette phrase de anger begets anger, avec toujours la haine qui attise la haine en permanence entre les gens, ce côté il y avait limite un côté un petit peu consanguin entre tous ces gens qui vont tous dans le même resto, qui vont tous dans la même boutique. Il y a ce côté assez marrant aussi de Frances McDormand qui bosse dans une boutique de souvenirs. Je sais pas qui achète des souvenirs dans cette ville quoi, franchement. Donc voilà, après, c'est clairement pas au niveau de la hype qui en a été faite. Moi, quand j'en entendais dans les podcasts, il est sorti un petit peu, il y a un poil plus longtemps aux États-Unis. Donc moi, de ce que j'entendais de ce film, je me suis dit, ça va être un chef-d'œuvre. Ouais. Et en fait, clairement pas. Donc voilà, il y a clairement une hype qui fait que c'est pas au niveau. Mais globalement, c'est un film que je recommanderais parce que je me suis pas ennuyé et j'ai passé un plutôt bon moment. Voilà.
D'accord. Alors moi en fait c'est un film que je trouve très sympa et effectivement je pense qu'il se prend des petites bifles du fait que il est censé être au niveau des Oscars et la vibe qui en ressort de cette promotion des Oscars c'est que enfin moi c'est ce que j'en ai reçu en tout cas en regardant vite fait une bande annonce et comment il était présenté c'est que c'est censé être un vrai drame lourd tu sais. Et du coup, moi, c'était comme ça que j'étais un peu parti voir ce film. Ensuite, j'ai réalisé que c'était le même réalisateur que Bon Baiser de Bruges. Et donc, je me suis dit, ah oui, je comprends la comédie, au final, qu'il y a dans pas mal de dialogues. Et je me rends compte que, oui, si tu pars voir un film ultra dramatique et que tu vois ce film... on va pouvoir être un petit peu perdu et peut-être pas l'apprécier à sa juste valeur alors qu'en fait si on t'avait dit ouais tu devrais regarder Three Billboards parce que c'est un film cool tu l'adores en fait tout simplement. Donc voilà, c'est pour rejoindre un petit peu le truc contextuel dont tu parlais Arnaud tout à l'heure. Très sympa, j'ai beaucoup aimé. En fait, j'adore tous les acteurs. Vraiment, et je pense que c'est fait exprès. J'entendais, je sais plus qui parlait de ce film, mais je trouve qu'en fait le capital sympathie sur tous ces acteurs est énorme. En fait, il manquait plus que Tom Hanks et Jennifer Lawrence, tu vois. Et genre, il y aurait vraiment tout Hollywood qu'on adore, parce que chaque acteur, tu te dis ah mais j'adore voir ce mec dans un film. J'aime bien l'humour qu'il y a dans ce film. Je trouve qu'il y a certains dialogues qui sont un peu trop fournis et un petit peu trop prétentieux. Alors peut-être pas dans leur contenu, mais dans la volonté d'avoir un dialogue qui veut dire ce que le mec a écrit chez lui. Voilà, je trouve que c'est un. Mais voilà, ça allait un petit peu trop loin à chaque fois, mais ça restait quand même plaisant à regarder. Et comme toi, Jean-Yves, j'aime beaucoup le côté on se connaît tous. On est dans une communauté, petite ville, où on a des petits clins d'œil entre chaque personnage de genre je connais ton histoire, tu vois. Très souvent, il y a ces dialogues qui reviennent entre Frances McDormand et Sam Rockwell où tu sais, elle sous-entend des trucs de la mère de Sam Rockwell. Mais on ne sait pas comment elles se connaissent, mais on sait que comme tout le monde se connaît dans cette ville, chacun peut aller titiller tout le monde un peu plus que la normale quoi. Et voilà. Et sinon bah écoute, j'ai failli être totalement perdu par la fin et pas du tout être d'accord, mais il y a des petits dialogues qui font passer le tout correctement. Moi j'ai passé un très bon moment. Big up aussi pour la BO, j'ai beaucoup aimé la BO en mode western avec du banjo derrière, je sais pas pourquoi. Mais est-ce que ça allait bien? Ouais, non, si, c'était sympa. Voilà, tout ce que j'ai à dire, je pense, à ce niveau-là. Et ensuite, on va peut-être dérouler le tout en spoiler. Je te laisse la parole, Arnaud.
Ouais, ben moi, j'ai pas tellement aimé, en fait, le film.
Et voilà, le grincheux.
On reviendra un petit peu en détail dans la partie spoiler, il y a pas mal de choses à dire. Mais déjà, en fait, je crois que j'en attendais beaucoup de ce film parce que moi j'avais beaucoup aimé justement Bon Baiser de Bruges de Martin McDonagh quand il était sorti. J'avais beaucoup moins aimé son deuxième film, mais là, vu qu'il y avait des bonnes critiques, je m'attendais un peu à un retour en grâce du réalisateur. Et en fait, je dois avouer, bon, il y a plusieurs choses. Je trouve que le dispositif de départ, cette idée comme ça d'utiliser des vieux panneaux publicitaires pour essayer de faire sortir quelque chose, je trouve que c'est un super dispositif de fiction en fait. J'avais l'impression avant de rentrer, tu sais, que je connaissais un petit peu juste le pitch de départ, tu vois, et je me disais que ça parlait vraiment bien d'aujourd'hui, de la manière dont on peut parler de ce genre d'affaires dans les
les médias
social media, tu vois, ouais, ou même les social media, c'est un peu Twitter, c'est Twitter sur un panneau publicitaire, tu vois, il y a un petit côté
mais c'est leur Twitter, ouais.
Sur ça qui en fait je trouve que c'était vraiment un très très beau point de départ pour développer plein de choses, et à vraiment à tous les moments j'ai l'impression que le film est à côté de la plaque, quoi. J'ai pas l'impression que le film développe ça de belle manière. Toi tu disais, c'est vrai que le film on n'arrive pas à le situer, qu'on sait pas si c'est dans les années 80, si c'est maintenant, c'est à dire de temps en temps ils parlent de Google, de temps en temps ils ont des téléphones portables, de temps en temps ils ont des téléphones fixes, et on n'arrive pas à situer. Et en fait je crois que j'en ai un peu marre de ces films entre guillemets intemporels, parce que c'est pas du tout intemporel, c'est juste on dirait un film vieux dans la manière dont le réalisateur voit les choses, en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas intemporel dans le sens où il y a rien du 19e siècle dans le si un film était vraiment intemporel, je veux qu'il y ait une légion romaine qui arrive à un moment donné, enfin tu vois ce que je veux dire. Il y a un truc un peu bizarre. Il parle de Google, donc on sait clairement que ça se passe à l'ère contemporaine, que ça se passe au temps d'internet, et pourtant en fait j'ai l'impression que justement au-delà de ces panneaux, le rapport aux médias il est pas du tout traité, en fait, tu vois, le rapport à comment ça se propage dans les médias, c'est-à-dire que même les journalistes ne sont pas des vrais personnages dans le film, il y a aucun des journalistes qui devient un personnage, on reste vraiment dans cette chose-là, et en fait au final je comprends pas le projet du réalisateur, c'est-à-dire que au début il y a une interview de Frances McDormand qui explique que les flics, plutôt que de torturer des noirs dans le commissariat, il ferait mieux de s'occuper des vraies choses. Alors, au bout d'un moment, je me dis, ah, peut-être qu'on va parler de la violence systémique de la police, mais pas du tout. C'est-à-dire, la police est plutôt vue comme des gens assez sympathiques. D'ailleurs, on y reviendra. Il y a des choses que je trouve très, très aberrantes. Par exemple, le personnage de Sam Rockwell fait des choses assez horribles, et tout ce qu'on lui fait, c'est qu'on lui donne un blâme, quoi, plutôt que de le mettre en prison.
Là, c'était un truc un peu bizarre. Mais il y a des petits morceaux, il y a des petits morceaux un peu dessin animé quand même dans genre spécialement autour de ce personnage, quoi. Ce personnage, il y va un peu trop loin tout le temps. Et il y a pas vraiment les conséquences.
Il y a pas les conséquences, ouais, et d'une manière générale, en fait, j'ai souvent l'impression que le film fait quelque chose parce que l'intrigue en a besoin. Que c'est vraiment plot driven, que le personnage va agir d'une manière qui ne correspond pas forcément au personnage, parce qu'on doit faire avancer l'intrigue et que tout repose sur ça. Et au final, on y reviendra en détail, hein, mais même sur, enfin, à la fin, je comprends pas ce qu'il a vraiment. Je suis sorti du film, je me suis dit, mais en fait, je comprends pas. C'est-à-dire, il pose des pistes de quelque chose et j'ai l'impression que rien n'est exploré, quoi. Voilà.
Après, ouais, non, mais je comprends pourquoi toi tu pensais que ça allait parler ou de la communication ou des trucs, mais c'est vrai que ça n'en parle pas du tout. Après, moi, j'étais pas du tout parti pour que ça parle de ça, et au final, forcément, je suis pas déçu. Mais effectivement, est-ce que je vous demande vos miams, et ensuite on peut détailler l'histoire, ou est-ce que il y a d'autres choses à dire, je sais pas, d'un point de vue de la technique d'ailleurs ou pas, est-ce que vous aimez les images, la photo,
sur la technique d'une manière générale, là j'ai beaucoup parlé du scénario, mais je trouve pas que ce soit un film très très bien réalisé. C'est-à-dire que dans le découpage, j'ai l'impression vraiment d'être dans un découpage de série télé lambda, tu vois. C'est-à-dire que la plupart du temps, on reste d'un seul côté de la salle, c'est découpé, tu vois, de manière à ce que on voit pas le quatrième mur, tu vois. Il y a un truc comme ça, presque sitcom, dans la manière dont c'est découpé. Et ensuite, moi, la musique, j'ai pas aimé, dans le sens où vraiment, elle appuie tout. Dans cette utilisation de la musique, il y a un moment, bon, c'est un spoiler, je peux pas vraiment en parler ici, mais où il se passe quelque chose et tu vas avoir un accord triste pour te faire comprendre ce qu'il y a sur cet endroit-là. C'est-à-dire que, en fait, la mise en scène, je la trouve assez banale, je la trouve pas extraordinaire, et ce qui fait que le film, je l'ai pas acheté, c'est surtout que j'ai beaucoup de choses à reprocher au scénario. Voilà.
Oui, non, mais t'as raison. C'est vrai qu'il y a un côté, bon téléfilm, en fait. C'est-à-dire un côté un peu mélo qui est lissé par rapport au ce que tu disais des Oscars. C'est-à-dire qu'on a l'impression que ce film est lisse à Oscar, en fait, pour pas trop prendre de risques, mais à l'arrivée, il prend tellement peu de risques que ça en devient. Sur la mise en scène, je parle. Hein,
ouais, bien sûr. J'ai quand même.
Sur la mise en scène, ça reste très banal, en fait, très très banal. Je voudrais revenir un petit peu juste avant la discussion spoil sur quelques personnages. J'ai bien aimé ce que tu as dit, Reski, sur le truc de Tom Hanks, parce que clairement Tom Hanks, il aurait été parfait dans le rôle de Woody Harrelson,
oui,
le bon daron de,
de la
bon
ville.
Daron avec le chapeau de, ouais, exactement. En fait, il y a quelque chose que j'aime bien dans ce personnage, c'est déjà un truc culturellement que je trouve intéressant, ce côté du shérif qui est un petit peu le daron de la ville, quoi. C'est pas un truc que nous on connaît dans notre culture. Il y a quelque chose de très communautaire en fait. Et même lui, ce que j'aime bien dans l'évolution de ce personnage. Alors on pourrait discuter de ce qui va se passer avec lui dans le film, où ça peut c'est un peu mélo, etc. Mais moi j'aime bien ce qui ressort de presque il a du mal à assumer ce truc de shérif daron, tu sais, et notamment quand il y a un incident avec le dentiste, tu sais, il dit mais je m'en fous du dentiste en fait, tu vois, c'est-à-dire que moi j'aime bien ce
il est là pour la paix sociale dans sa communauté, et donc ce côté on est détaché quand même
voilà, et il rentre chez lui, il a juste envie d'aller voir ses chevaux parce que ils font chier les villageois, enfin j'aime bien aussi le à un moment pareil, t'as l'impression en fait que cette toute petite ville, ils se font tout un monde en fait, les flics, ou genre quand il y a un incident, pareil avec Frances McDormand, ils vont aller la voir et tu sais ils mettent les gyrophares, ils mettent les sirènes pour faire 50 mètres, tu sais, pour aller du commissariat pour aller voir Frances McDormand. Donc voilà ce personnage de Woody Harrelson, je l'aime bien et j'aime beaucoup cet acteur parce que c'est un gars qu'on va voir souvent, qui a pas toujours eu la carrière peut-être qu'il méritait. Je le trouve assez constant dans son bon niveau, je le trouve plutôt globalement bon en fait quand il fait quelque chose. J'aime beaucoup aussi le alors on pourra en discuter parce que c'est vrai qu'il est peut-être surexploité, mais j'aime énormément le truc de Sam Rockwell avec sa mère en fait, où à chaque fois il y a Frances McDormand qui arrive à le coller sur genre un moment il va faire un petit peu le gars qui roule des mécaniques, et Frances McDormand elle va dire qu'est-ce qu'il y a, tu t'es fait coacher par ta maman, et puis c'est exactement ça en fait, c'est assez drôle, et il joue vraiment à la perfection le fils à maman beauf de village américain, parce que pareil, quand il y a toujours ce rendez-vous, ils vont tous dans ce bar un peu miteux où il y a vraiment tout le village qui va dans le même bar, et à un moment pareil elle lui dit mais tu rentres pas chez ta mère et tout, il lui dit non mais parce qu'il est un peu bourré, il joue super bien le gars bourré, d'ailleurs je sais pas s'il est actually bourré, mais il va dire non mais parce que
je te rentre à minuit,
j'ai la permission de minuit, ouais. c'est assez sympa. Et après, qu'est-ce que je voulais dire aussi sur les personnages, et finalement à l'arrivée, c'est le personnage principal de Frances McDormand, c'est le personnage que j'aime le moins, et c'est un des défauts, et j'ai oublié d'en parler, t'as parlé de la bande-annonce. La bande-annonce le vendait comme un film Coen.
Oui.
Et moi je m'attendais à voir vraiment un film Coen, et ce film, je pense, c'est la preuve que c'est pas si facile que ça de chausser les petits chaussons Cohen, quoi.
Parce qu'il lorgne clairement du côté des Cohen, c'est-à-dire
voilà,
c'est le musicien des frères Cohen, c'est Frances McDormand. Ouais. Enfin, on sent clairement qu'il lorgne.
Il y a le côté violence, comédie noire, etc. On est totalement.
Il y a des tentatives et ce film, je pense, c'est vraiment l'anti No Country for Old Men, quoi. C'est-à-dire que il y a clairement des tentatives de certaines scènes où moi je repense, et du coup je repensais à des scènes de No Country for Old Men et je me disais ah ouais, clairement c'est raté, quoi. Il y a pas de il y a pas l'étincelle.
Mais est-ce qu'il
voilà,
veut
c'était...
faire ça? Je pense que
non, il veut pas faire ça, mais c'est la c'est la preuve que voilà, c'est le style Cohen est quelque chose qui est difficile à atteindre en termes de d'efficacité, quoi. Tu vois, c'est pas et puis voilà. Ce film, il m'a fait un petit peu penser aussi à Manchester by the Sea, dans le sens où c'est un petit peu l'anti-Manchester by the Sea aussi, sur la gestion des flashbacks, que je trouve pas très réussi. Et d'ailleurs, c'est pas anodin, puisqu'il y a un des acteurs qui joue le frère de la fille qui joue dans Manchester by the Sea.
Ah oui,
et on va voir exactement on va voir de la même façon que c'est pas facile, pareil, de faire du Manchester by the Sea, quoi. C'est pas, c'est un peu raté, quoi. Notamment la scène où il va y avoir un flashback avec la fille, moi je trouve pas très réussi. Donc voilà, c'était ce que je voulais dire par rapport à ça. Et aussi très rapidement, je trouve pas super réussi le credo du flic blanc un peu raciste américain. Je trouve pas très dans le commissariat et tout ce qui va se passer avec le personnage qui arrive un petit peu à la suite, qui jouait dans The Wire d'ailleurs, il me semble, cet acteur
encore un personnage avec un gros capital sympathie.
Voilà, exactement. Et ça, c'est un peu sous-exploité. Je trouve c'est un peu dommage. Tu dis, ah, on va rentrer dans le vif du sujet de un commissaire noir qui arrive dans une petite ville du Missouri. Et c'est pareil, c'est laissé complètement de côté. Donc c'est un petit peu décevant.
Ouais, ça c'était peut-être un peu étrange parce que c'est vrai qu'on te le set-up un peu avec le petit racisme de ce personnage et on sait pas pourquoi. En fait. Par contre, c'est vrai que là, contrairement à Logan Lucky, les sudistes passent pour des gros cons, quoi. Alors, quand tu réfléchis, tu te dis, bon, bah, en fait, non, parce qu'il y a d'autres gars du Sud, bah, comme le Woody Harrelson ou Frances McDormand, tu te dis, bah, non, en fait, ils sont pas tous cons. Mais le niveau de connerie des gens cons est tel que, en fait, tu te dis, ah, bah, vous passez tous pour des cons, en fait.
C'est ça qui est un peu. C'est surtout que la plupart des personnages en plus sont tracés d'un seul trait, tu sais, c'est-à-dire qu'il y a un seul trait de caractère, c'est-à-dire si c'est la connerie, c'est la connerie. Par exemple, la jeune nouvelle copine de l'ex-mari de Frances McDormand, oui. C'est le cliché absolu de la
serveuse,
gourde, quoi, tu vois, c'est
gourde, ouais, qu'est-ce que c'est ça qui...
En fait tous les personnages comme ça, on dirait il y a un seul trait de caractère, tu vois, qui les caractérise. Il y a un truc comme ça qui est extrêmement simple, ce qui fait que quand on voit la connerie, on voit que la connerie, alors que chez les frères Cohen, ça va être toujours plus complexe que ça, par exemple.
Oui, mais enfin là on parle de personnages ultra secondaires, parce qu'au final quand même il y a des couches, hein, dans les autres, il n'y a pas qu'un seul trait pour les personnages principaux.
Pas tant que ça non plus, et quand tu vois un film des frères Cohen, c'est le truc qui est assez génial dans leur film, c'est que le type, son rôle, ça va être le caissier d'une station à essence, mais tu le sens, le personnage, tu sens pas que c'est juste un stock caractère,
oui, oui,
qu'on a mis derrière le contrat, tu vois ce que je...
Oui. Après, voilà. Là, on est... Franchement, on est vraiment plus dans la comédie que des films de frères Cohen, quoi. C'est-à-dire que vraiment celui-ci.
Il y a des grosses comédies dans les films de frères
Cohen.
Mais je
suis d'accord. Mais je trouve que dans celui-ci, il y a une volonté aussi. Tu vois, c'est pas pour rien qu'on voit pas non plus le meurtre, etc. Tu vois, on est quand même. Voilà, on se met après.
Je suis assez d'accord. Ouais. Je suis assez d'accord. On
mais
a.
C'est pas parce
j'ai
que
vu
c'est
pas
de
mal
la
de.
Que tu dois avoir des personnages caricaturaux. En fait, c'est ça que je veux dire.
Oui, non, mais moi, ce que je veux dire, c'est que je ressens pas. Tu vois, enfin, moi, un, deux personnages caricaturaux, c'est pas que, surtout quand ils sont aussi secondaires que la meuf.
Un peu plus que ça, moi, mais.
C'est pour ça. Mais moi, je trouve que les autres, ils le sont pas. Tu vois, ou en tout cas, ils ont un petit peu la petite évolution qui va faire que tu te dis, il y a forcément.
Et alors,
plus
on va en parler
couche,
de l'évolution des personnages. C'est ça que j'achète pas, quoi. Mais
ah bah après, c'est,
bon,
c'est...
on peut peut-être rentrer dans la partie spoiler,
ouais.
Comme ça on va pouvoir se lâcher.
Ok.
Les miams alors.
Mon niveau des notes, je vais être très très sympa parce qu'encore une fois, même s'il y a plein de défauts, j'ai passé quand même un bon moment devant ce film, donc je vais lui mettre 3 sur 5.
Moi je vais mettre 1,5.
Oh, putain la vache, t'es sûr de ce que tu dis. Et moi, ouais. 3,5. Miam. Donc voilà. Donc maintenant, on n'écoute plus parce qu'on va détailler les... On n'écoute plus. Enfin, si, sauf si vous voulez vous faire spoiler. Genre les gars, tout ce qu'on va faire à partir de maintenant, ça, le podcast ne sert plus à rien. Éteignez-le. N'écoute plus. On va pouvoir spoiler un petit peu toute cette histoire. Est-ce que déjà, il y a des petits détails ou des choses, on va dire, chronologiques avant de rentrer dans une analyse transversale du film. Il y a des petites choses dont vous voulez parler, je sais pas, dès le début du film.
Attends,
ou...
de quoi tu parles de petites choses? Qu'est-ce que tu veux dire?
Je sais pas si vous avez eu des petites pensées à relever dans ce film qui serait spoilante, avant même d'analyser justement tout ce qui est évolution des personnages, etc.
Non, ouais. Mais à part que le point de départ, moi, comme je l'ai déjà dit, je le trouve plutôt bien foutu, quoi. C'est-à-dire que quand on installe les choses, ça donne vraiment l'impression qu'il va y avoir une vraie analyse et un vrai développement d'une petite ville américaine comme ça, quoi. Mais,
alors, après moi, je vais te dire la première scène de ce film, c'est pour moi les défauts que j'ai dans ce film. C'est-à-dire qu'en fait, pourquoi commencer le film par la protagoniste qui découvre cette idée? Tu vois ce que je veux dire? En regardant les trois panneaux. On pourrait arriver après et j'ai l'impression qu'on me prend trop par la main, en fait. Tu sais, avec le gros plan, elle joue très bien, mais le gros plan sur son visage en train de faire, oh, mais je me demande si je pourrais pas utiliser, tu vois ce que je veux dire? Et tu pourrais commencer directement par elle qui arrive chez Ebbing Advertising.
Et voilà, si la meuf disait oui, vous avez trois panneaux que vous utilisez pas, etc., ça passerait crème, tu vois.
Ouais, c'est vrai.
Mais
ouais.
Et moi, du coup,
voilà, c'est juste pour dire pourquoi c'était mon problème. C'était comme je disais tout à l'heure avec les dialogues ou avec les trucs, c'est qu'on va toujours trop loin dans quelque chose, trop loin dans j'explique ce qui se passe. Et il y a la même scène à un moment quand il y a un petit daim qui passe, il y a Bambi qui passe à côté de Frances McDormand.
Ah oui.
Et elle lui parle à voix haute. Alors que pour moi, c'est pas la réincarnation, mais tu vois ce que je veux dire, tu sens le gars qui veut parler au public et qui dit bon bah il y a qui dans cette scène, alors on va faire parler cette personne. Et au
fil de dialogue ou à un moment donné en fait pour dire quelque chose d'aussi simple que j'ai pas de leçon à recevoir d'un prêtre à cause des affaires de pédophilie qu'il y a dans l'église. C'est une scène qui prend 4 minutes.
Ouais.
Où d'abord, elle va détailler
culpable,
des trucs de. Et en fait,
Crips and Bloods, etc.
Là où tu sens vraiment le scénariste derrière, c'est-à-dire tu sens que c'est pas le personnage qui s'exprime quand il dit,
complètement.
Ça, tu vois, il y a quelque chose.
Tu sens la personne qui a dit ça, qui a fait le parallèle entre Crips and Bloods et les pédophiles dans l'église, dans une soirée, qui s'est dit putain c'est génial ça. Faudrait que je l'écrive pour un personnage, tu vois. Et voilà. Et mince, je sais plus si j'avais un autre exemple
mais
de
sur
ça.
Mais
en gros,
tu disais
voilà.
des panneaux. Moi, j'aime beaucoup cette scène d'intro de nuit, un petit peu comme ça, avec la mini montée sur
Sam Rockwell,
qui chaque fois fait des grosses marches arrière pour aller découvrir ce qu'il y a sur le panneau suivant.
C'est pas la même scène.
Ah,
tu parles de celle quand vraiment elle a l'idée juste avant.
Ah oui, d'accord.
Genre tout au début.
Moi, je...
Ah non, c'est là.
Là, ce que tu dis, c'est déjà la 3 ou 4e scène.
Ok. Alors, je pensais que c'était plus tôt que ça, en fait, l'installation des panneaux. Et en fait, à tel point que je me demande si ça aurait pas été mieux de plus travailler sur le suspense de ce qui a écrit sur ces panneaux. En fait, je me demande si c'est pas un tort de dévoiler tout de suite ce qui a écrit, en fait.
Ouais.
Parce que il y avait peut-être quelque chose de mieux à faire à ce niveau-là. Donc voilà, moi ce que je reproche, moi j'ai envie de rentrer dedans direct parce que c'est un truc que j'ai lu tout à l'heure dans un petit article de première sur une soi-disant polémique. Moi je comprends pas en fait la rédemption de Sam Rockwell à la fin, quoi.
Ah,
je comprends pas.
Absolument pas non plus. Hein.
Je comprends pas en fait d'où en fait on veut nous faire croire qu'il est un peu touché par la grâce de Dieu, il devient un peu intelligent, tu sais. C'est assez ridicule.
Surtout qu'il y a il y a quelque chose, c'est-à-dire que quand ça arrive, il y a aucune des caractéristiques du personnage qui reste dans le personnage une fois qu'il a changé. C'est-à-dire on a vraiment l'impression que c'est un nouveau personnage qui arrive et qui est différent.
Exactement,
quoi.
Ouais.
Et même les historiques, c'est-à-dire que du coup, en fait, le passif qu'il y a entre lui et Frances McDormand, c'est oublié en une fraction de seconde, tu vois. Il n'y a pas de choses pour développer. Et la scène, pour nous expliquer ça, en plus, je la trouve d'une lourdeur ahurissante. C'est déjà, tu disais, tu vois, ce truc de... on voit bien que c'est une petite ville où tout le monde se connaît. Tout le monde se connaît, et pourtant, on le met dans la chambre de quelqu'un qui l'a tabassé à l'hôpital. Je ne comprends pas pourquoi. Enfin, si tu veux, ça me brise ce truc de petite ville, comme tu disais quand je vois ça. Et on nous montre ce moment d'épiphanie parce que justement le type qui l'a jeté par une fenêtre l'excuse en lui donnant un verre de jus d'orange. Et c'est là le truc de la musique dont je vous parlais. Ah. Il pose le jus d'orange pour Sam Rockwell sur la table de chevet. Et là, il y a un accord triste pour nous expliquer ce que je dois penser de ce qui se passe en ce moment. Et ça fonctionne souvent comme ça avec le suicide de Woody Harrelson. C'est la même chose, tu vois, où la musique vient toujours pour me signifier. Et c'est-à-dire que le film a deux modes différents, c'est-à-dire soit cynique, soit triste, où on essaie de passer de l'un à l'autre, et quand on passe de l'un à l'autre, j'ai l'impression que c'est vraiment deux films différents. J'ai pas l'impression qu'il y ait de la cohérence dans les deux, et donc il se sert de la musique pour passer de l'un à l'autre, et c'est quelque chose qui me gêne beaucoup, en fait.
D'accord.
C'est pas réussi, en plus, parce que même si le film est un peu revendiqué comme une tragicomédie, moi je trouve qu'il y a quelques moments où moi j'avoue avoir rigolé, je trouvais sympa, mais quand on va dans le versant tragique, c'est clairement, comme tu disais, c'est mélo au possible, c'est insupportable. La scène de Woody Harrelson où ils vont au bord du lac et tout, je la trouve nulle à chier, quoi.
Ouais,
enfin,
je
comprends pas parce que vraiment il y avait quelque chose à faire au niveau de ce personnage qui est malade et c'était assez, ça j'ai trouvé ça assez sympa. À un moment, il y a un truc que j'aime bien, c'est à un moment, il va avoir une discussion avec Frances McDormand et il lui dit qu'il a un cancer et elle a dit mais tout le village le sait. Et il joue vachement bien le gars qui est un petit peu décontenancé par rapport à ça ou comprend pas.
Oui, qui voulait l'utiliser comme un levier surtout pour dire
voilà.
Enlève les billboards, mais en fait voilà, elle l'a fait en connaissance
et
de cause.
Et l'évolution et la fin du personnage de Woody Harrelson, je la trouve, mais vraiment téléfilm M6 du dimanche après-midi, quoi. Enfin, vraiment.
Alors, moi, je sais pas, moi, je suis tiraillé parce que Woody Harrelson, j'ai effectivement, j'ai envie de voir un peu plus le rapport qu'elle pourrait avoir entre ce gars qui est mourant, mais qui se dit, qui pourrait peut-être se dire, est-ce que je devrais pas, je sais pas, me mettre les bouchées doubles avant de mourir pour essayer d'élucider cette affaire ou un truc comme ça? Et en fait, non. Et du coup, j'ai quand même bien aimé le fait d'être surpris par son suicide aussitôt dans le film, en fait. Ne serait-ce que par le plaisir de pas avoir spécialement vu ça venir à ce point tôt. J'ai trouvé ça sympathique. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire.
Mais d'ailleurs, c'est marrant parce que ce truc que tu disais sur cette enquête, ça nous est montré, en tout cas dans le caractère du personnage principal, ça nous est montré un peu comme l'élément moteur du personnage de résoudre cette enquête. Mais elle fait absolument rien pour essayer d'amener ça. C'est-à-dire que on voit jamais, tu vois, l'enquête pendant tout le film. Dès le début, même, on nous fait comprendre, tu vois, avec un dialogue entre elle et Woody Harrelson, que grosso modo, en fait, ils ont fait ce qu'ils ont pu pour résoudre cette affaire, mais que ça n'a pas marché et que c'est pas en mettant ces panneaux que ça va continuer. Et en fait, le film essaie de nous faire croire quelque part que c'est important de laisser ces panneaux parce que ça va permettre de résoudre l'enquête, alors que pas du tout, en fait. Et c'est très étrange, en fait, j'arrive pas à acheter, en fait. Je l'achète au début, et puis de la manière dont ça se développe, j'arrive pas à l'acheter, quoi. Je sais rien de cette affaire. C'est très artificiel. À la fin, il va y avoir un rebondissement autour de cette affaire qui est un deus ex machina que j'ai du mal à comprendre, en fait. On peut en parler d'ailleurs.
Oui, mais final n'est pas un deus ex machina, bon, puisque c'est pas
alors,
du tout le.
Ce qui se passe, c'est que dans un bar, Sam Rockwell, en fait, entend quelqu'un en train de se vanter d'avoir violé et brûlé une fille. Bon, qui se vante de ça dans un bar? Bon, je sais pas, j'ai du mal à le croire, surtout que la réaction de son ami face à ça, on a l'impression qu'il fait Ah ouais, t'as fait ça? Ouais, ça a l'air pas mal, faudra que j'essaie un jour. Tu vois, c'est vraiment mais deux psychopathes dans un bar qui parlent. Je sais pas, et comme par hasard, tu vois Deus Ex Machina de malade, comme par hasard, Sam Rockwell est là pour écouter ce qui se passe à ce moment-là. Ça arrive vraiment comme un cheveu sur la soupe. Et après, on nous révèle que finalement, non, il s'agit sans doute d'une autre affaire de viol. Et là, moi, c'est la fin que j'achète pas du tout. C'est-à-dire, Sam Rockwell appelle Frances McDormand pour lui dire « Bon, je croyais avoir trouvé l'assassin de ta fille. Il se trouve que c'est pas le cas, mais c'est quand même un violeur. On pourrait peut-être aller le tuer, non ?» Ce à quoi Frances McDormand répond « Mais oui, bien sûr, c'est ce qu'il faut faire, absolument. »
Oui, oui, mais après, bon, soyons clairs. Bon, alors certes, ils mettent un fusil dans la voiture. Et ils s'en vont. Mais bon, après, il y a quand même, on va dire, la mini-rédemption du dernier dialogue. Parce que genre, qui dit genre, non mais attends, est-ce qu'on va vraiment faire ça? Et pas vraiment. Enfin,
mais alors justement, côté... c'est-à-dire, c'est ce que je dis sur un film qui est plot-driven. C'est-à-dire que McDonough a une idée, il se dit, putain, si je fais un plan sur une voiture, sur eux dans la voiture qui dit ça, putain, ça claque. Il faut absolument que je trouve un moyen d'écrire une situation pour qu'on en arrive là.
Et ça je sais pas parce que en fait je trouve que ça s'inscrit aussi pas mal dans la question du film, c'est quand est-ce qu'on s'arrête, en fait. Quand est-ce qu'on s'arrête? Est-ce qu'on devrait pas s'arrêter parce que voilà, il y a plus de preuves pour cette enquête? Alors à ce moment-là, ne fais pas de... Non, mais moi je parle pour le personnage. À ce moment-là, ne mets pas les billboards, tu vois. Quand est-ce qu'on s'arrête? Et du coup, quand est-ce qu'on s'arrête? Peut-être avant de balancer des cocktails Molotov chez les flics. Et ensuite, quand est-ce qu'on s'arrête? Est-ce que...
Ça aussi, c'est...
Aller tuer quelqu'un d'autre qui n'a pas de rapport avec l'affaire? Voilà.
Les cocktails Molotov, c'est aussi ultra artificiel. C'est-à-dire, on arrive à un moment où, dans le film, où Woody Harrelson s'est suicidé, c'est un nouveau chef de la police qui dit que les choses vont changer, et c'est le moment où elle décide de balancer des cocktails Molotov, quoi. Enfin, je veux dire,
non, qu'on a brûlé, c'est les panneaux. C'est pas pour rien non plus, tu vois.
Non, mais attends, j'ai bien compris, je suis pas con non plus. Mais ce que je veux dire, c'est que dans le personnage, le moment où ça arrive, c'est pile au moment où la situation change, et je comprends pas pourquoi elle le fait. Et même ça, il y a aucune conséquence à ça. C'est-à-dire elle est pas arrêtée quand elle l'avoue. Sam Rockwell qui a été brûlé au troisième degré, mais qui est sorti de l'hôpital 2 heures après, d'ailleurs. Bon, dit à Frances
McDormand,
je le savais depuis le début, lol, c'était trop rigolo, quoi. Enfin, je veux dire, plus on s'enfonce dans le film et plus ça devient mais n'importe quoi dans la manière.
Alors qu'ils entretiennent, on t'a vraiment montré qu'ils entretiennent une haine mutuelle, ouais, mais ouais, à couper au couteau quoi. Tu sais, donc c'est complètement invraisemblable. Et j'avais envie de revenir sur le truc le plus invraisemblable du film, qui juste après que Sam Rockwell, avec la haine la plus totale, est jeté par sa fenêtre.
Non mais ça va, c'est ça. Ça traverse la rue ça,
et genre le nouveau commissaire qui arrive, il le regarde un petit peu à la Seinfeld, un peu.
C'est genre
un boire petit son peu café. Oh, c'est pas bien.
T'es allé
c'est
un pas petit bien, peu genre, trop loin, hein.
Il dit rien, mais c'est hallucinant
et
cette scène.
C'est le lui retirer son flingue et son badge.
Ouais.
Et il devrait un blâme, quoi. Temps, le juste, tu comprends mais pas. Oui, ce
oui.
Se passe,
ouais. C'est-à-dire qu'à un certain moment,
il y a 50 témoins dans la rue, tu sais.
C'est ça.
Ouais.
50 témoins et genre, t'es en train de me dire que même lui, qui peut parler du coup, puisqu'on le voit 4 secondes après à l'hôpital, il va pas dire non, mais là quand même, je crois qu'il est allé trop loin de me jeter à travers une fenêtre du premier étage.
Très bien que ça se passe, mais parle-moi de la violence systémique policière à ce moment-là. Pourquoi il s'en échappe? Et le film ne traite jamais ça. Du coup, c'est une blague à la Seinfeld, en fait. Au milieu du film, quoi.
Et ce qui rend d'autant plus grave le twist de rédemption, parce que ça qu'est-ce que te dit le film? Ça veut dire que les petits flics villageois racistes blancs américains, bah finalement ils sont sympas en fait.
Ils
peuvent être sympas,
avec le bon
donc
contexte,
on les pardonne.
La bonne histoire, truc qui peut-être qu'ils vont être.
Donc il y a une rédemption du flic raciste qui torture des noirs, tu vois, mais qui est pas vraiment acheté. Et d'ailleurs on peut parler de la manière dont le film traite les personnages noirs dans le film, c'est-à-dire que à un moment donné, donc Frances McDormand a une employée dans sa boutique de souvenirs qu'on voit à peu près 15 secondes.
Ou une associée.
Et au bout de
15
secondes, hein.
C'est ouais, raciste
associée,
ce que tu dis.
Peut-être. C'est vrai. Ou peut-être son associé. Mais en tout cas, en fait, on nous fait comprendre à une scène de 5 secondes qu'elles sont sans doute amies. Juste après, la police, pour faire pression sur Frances McDormand, décide d'arrêter cette personne-là. Là, elle croupit en prison pendant je sais pas combien de temps et il vient jamais à l'esprit de Frances McDormand de se dire « Tiens, il faudrait vraiment que je trouve un moyen de la sortir de là. » Tout d'un coup, elle ressort comme une fleur, tu vois, dans une scène qui va faire 10 secondes pour dire « Ah, je suis trop contente, je suis sortie de prison. » Qui en veut même pas à Frances McDormand pour ce qui s'est passé. Et là, elle tombe comme par hasard sur le seul hôte noir de la ville et on nous fait comprendre qu'ils ont une relation entre les deux parce qu'ils se sont trouvés parce que tous les deux sont noirs, quoi. Il y a un truc super bizarre sur ces deux personnages qui est...
Oui, et puis clairement, là, c'est là où c'est limite un petit peu malheureux pour le réalisateur, c'est que ça fait vraiment ce truc raciste de « c'est mon ami noir », quoi. Tu sais, c'est la collègue noire, quoi. Alors, il y a vraiment un truc très bizarre par rapport à ce niveau-là.
Et d'ailleurs, ça et l'erreur du fait de ne pas avoir mis de conséquences au gars qui se fait jeter par la fenêtre, est-ce que c'est pas la volonté, justement, de le rendre... soi-disant intemporel, avec ce feeling des années 50 où si le deputy, l'adjoint du shérif faisait vraiment, vraiment de la merde, personne n'allait vraiment le mettre en prison, tu vois. Et...
peut-être, mais traite-le. Traite de cette manière dont les flics peuvent s'en sortir, tu vois. Là, il n'y a aucune raison pour laquelle ils s'en sortent pas.
Oui, non, mais c'est...
Il n'y en a aucune. On traite jamais
non, mais,
de
non, mais c'est ça. Ce que je veux dire, c'est que c'est une erreur dans le sens où ils ont voulu, tu vois, faire tellement ce feeling... que c'en est devenu faux, en fait, de le mettre dans un contexte moderne.
Ouais.
Une autre déception que j'ai, moi, par rapport à...
On fait qu'enchaîner les trucs qu'on a fait. Et après, on dit, ouais, 3,5, miam.
Moi, non, mais si, quand même. Parce que j'attendais beaucoup de la thématique de la communication et des médias dans cette petite ville. Et moi, je trouve que les passages où il y a la télé locale, c'est pas du tout traité, voire complètement raté. Et je l'opposerai assez volontiers contre le master dans le domaine qui est Fincher. Ou par exemple, tu vas avoir dans des films comme Gone Girl un traitement de la télé qui est absolument génial. Et là, c'est vraiment dommage parce que c'est leur canal de communication favori. On va voir plusieurs fois dans le film des personnages qui apprennent des news via la télé locale, en fait, et on va même avoir la contrepartie de ça avec cette télé locale qui va interviewer Frances McDormand, pourquoi vous avez fait ça, qui après ils vont se faire insulter parce qu'elle passe en voiture, etc. Et je trouve c'était une grosse déception qu'il n'y ait aucun traitement de ce rapport aux journalistes, en fait. Les journalistes ne parlent pas, en fait, chose très très dommage.
C'est pas des personnages,
exactement. On les voit de dos à la limite, tu sais, on voit leurs cheveux, ouais. Et ils n'existent jamais. J'ai trouvé ça vraiment dommage. Il y avait vraiment pour moi quelque chose à faire de ce niveau-là.
Alors,
pour le coup, moi, qu'est-ce qu'on a fait qu'aimer alors du coup dans ce film ? Est-ce que tu t'es, est-ce que t'as ri...
Et moi, j'ai pas aimé grand-chose.
T'as même pas rigolé en fait, Arnaud, du coup.
Ben si, j'ai rigolé de
temps
en temps.
Si, j'ai rigolé. Ouais.
Parce que malgré le fait, tu vois, qu'on disait que les dialogues parfois semblent pas convenir au personnage, il y en a certains qui sont quand même assez rigolos, tu vois. Il y a certains trucs qui peuvent passer comme ça. Mais en fait, si tu veux, au final, c'est pareil, tu vois, sur le scénario. Si la seule chose que j'ai à dire de bien, c'est les dialogues sont réussis, ça veut dire que c'est un petit peu raté, quoi, parce que le. J'ai l'impression que tout ce qui est important pour essayer de me faire passer en fait cette histoire, c'est-à-dire sa construction, je la trouve vraiment super artificielle, quoi. J'avais vraiment l'impression de voir une V1 de scénario, une première version, un premier jet, quoi, un truc jeté sur le papier comme ça, parce que comme j'ai dit, j'ai l'impression que ça part un peu dans tous les sens, mais que rien n'est traité, ouais. Quoi.
Alors c'est marrant parce que moi enfin quand on y réfléchit, c'est vrai ce que tu dis, mais au visionnage, pas du tout ressenti comme ça. Mais quand on analyse, c'est vrai que j'ai plus l'impression que pour n'importe quel autre film, ou plutôt comme les films qu'en général on n'aime pas dans le podcast, il y a plein de mini-embryons d'arcs narratifs qui au final sont pas du tout exploités. Mais ouais.
Et tu vois c'est ce truc excuse-moi. Bon attends.
Vas-y.
On parlait, tu vois, des acteurs, et c'est vrai que... Bon, il s'entourait de super acteurs, hein, vraiment. Mais en fait, il y a quelque chose, ça me donne un peu l'impression de les voir. Tu sais, c'est comme quand tu vois un pianiste virtuose qui joue un morceau extrêmement difficile, tu vois. Où tu peux avoir en fait vraiment une impression différente. C'est-à-dire que par exemple, t'as un morceau qui est un peu connu pour ça, c'est le vol du Bourdon de Rimsky-Korsakov, qui est un morceau extrêmement rapide. Et quand t'entends des pianistes par exemple jouer ce morceau, il y en a certains où tu vas voir qui vont essayer d'aller vraiment le plus vite possible, et tu vas presque entendre, tu vois, juste un espèce de bruit de fond, et tu vas voir un type et tu vas faire ah ouais, techniquement c'est super fort. Et tu vas en avoir d'autres où tu vas avoir beaucoup plus une interprétation, tu vois, où tu vas un peu ralentir à certains moments, accentuer à certains endroits certaines notes, etc., etc. Et là en fait, l'impression que j'ai, c'est que je vois beaucoup d'acteurs extrêmement virtuoses, mais qui sont un peu mal servis par la mise en scène. C'est-à-dire que la mise en scène n'appuie pas forcément sur, tu vois, tu disais la différence avec les frères Cohen, et la différence avec les frères Cohen, c'est j'ai l'impression que tous les dialogues sont joués sur le même rythme, que je vais pas avoir une pause à un endroit pour essayer de faire ressortir un dialogue par rapport à un autre, que je vais pas avoir, tu vois ce que je veux dire, c'est-à-dire cette interprétation, je trouve qu'ils campent très bien leur personnage, mais la manière dont ça m'est rendu à l'écran, il y a quelque chose qui me touche pas énormément en fait.
Ouais,
mais c'est marrant ce que tu dis, parce que clairement l'exemple, moi, que j'ai de ça, c'est Sam Rockwell, à qui on demande à tort d'avoir une épiphanie. Alors il va super bien le jouer, tu vois, il dit c'est mais ça. T'es sûr que j'ai cette révélation, ouais. Et donc là on voit que le talent de l'acteur a vraiment joué le gars qui change,
ouais. Avec ses
mais
yeux,
clairement il est desservi par il est vraiment desservi par le scénario à ce niveau là c'est clair, hein.
Ouais.
c'est clair.
Tu voulais dire quelque chose, je crois, Jean-Yves?
Ouais, je voulais parler de quelques trucs que j'avais bien aimé quand même, parce que c'est vrai que Areski, t'as raison de rappeler que voilà, il y a quand même des trucs assez positifs. Moi, j'ai trouvé assez sympa l'apparition de Pinter Dinklage, qui est le midget du village un petit peu, avec des trucs assez touchants où clairement il a envie de mettre Frances McDormand dans son lit, et il a du mal, et il y a des répliques assez marrantes, notamment avec ce truc où il va se retrouver au resto avec elle alors qu'il y a en même temps son ex avec la fille qui arrive, où il joue à la merveille le gars à qui t'as fait de la peine et qui prend ses yeux de chien battu un peu, tu sais, genre j'étais pas obligé de venir tenir ton échelle. Tu sais, pendant
oui.
Donc j'ai bien aimé ce petit personnage, ça avait le mérite en fait d'exacerber ce côté,
oui,
du,
voilà,
village un peu, il y a le nain du village, tu vois.
Mais c'était bizarre aussi, parce que genre, c'est vrai que ce personnage il disparaît pendant genre 40 minutes du film, tu vois, et il réapparaît à un certain moment, donc tu veux... on sait pas trop en mode.
Ouais, c'est vrai. Il y avait quelque chose de beaucoup plus intéressant à développer aussi, c'est-à-dire que même dans son monologue à la fin, quand il l'envoie chez Frances McDormand, où il explique j'ai des problèmes d'alcool et je vends des voitures d'occasion, et ben ouais, mais j'aurais aimé le voir, tu vois, plutôt que tu me le dises à la fin dans un.
En fait, c'est peut-être le problème de ce que tu disais. Alors, soit il y a trop de personnages secondaires, ou alors ils sont mal exploités. Et typiquement, je trouve que ton analogie avec la scène de la station-service de No Country for Old Men est assez juste, parce que clairement, on aurait vu une scène de 5 minutes avec Dinklage dans son truc de voiture. Ouais. Ça aurait été peut-être beaucoup mieux. Ça aurait laissé une empreinte beaucoup plus visible que de le revoir. popper au coin de la rue, genre pour donner un alibi à Frances McDormand pendant que. Enfin, il est là, genre, oh,
le Deus Ex Machina, quoi, tu sais.
Mais en même temps, pour l'histoire, j'ai l'impression que je pense qu'il prenait son pied à justement pas montrer les autres personnages et juste. Les sous-entendre par des dialogues, exactement comme je disais pour la mère de Sam Rockwell et le fait que Frances McDormand en fasse référence. C'est-à-dire que je pense qu'il aime bien jouer sur le fait que je vais créer encore plus ce sens de communauté parce que on vous dit quelque chose et que c'est reconnu par tout le monde. C'est-à-dire que genre à la limite la meuf va hocher la tête quand il va dire j'ai un problème d'alcool et je vends des voitures, tu vois, mais pas le montrer. Donc mais après pourquoi? Pourquoi avoir fait ce choix, en fait, je sais pas.
Ben c'est ça, en fait. C'est-à-dire, parce qu'en plus, t'as pas besoin de beaucoup, comme le disait Jean-Yves, tu vois, c'est genre une scène dans son travail de Peter Dinklage, ça m'aurait suffi à me camper le personnage. Ou c'est juste même la manière de faire. C'est-à-dire que, par exemple, tu vois, on parlait de cette scène où on introduit cette associée ou employée noire de Frances McDormand dans sa boutique de souvenirs. La scène ne me dit rien sur le personnage. C'est tout ce qu'elle dit, c'est qu'elle est admirative de ce que fait Frances McDormand. J'ai pas une scène qui me campe quelque chose de particulier sur ce personnage. Les frères Coen, je peux avoir une scène sur un personnage, mais il va y avoir un truc.
Alors,
où je me dis ah ouais, c'est un personnage qui a
une vie propre.
Je suis
d'accord, mais en fait,
mon problème,
ça va pas être ça parce qu'en fait, moi, je vois la différence, comment dirais-je, artistique de vouloir ou bien camper un personnage ou au contraire le faire en sous-entendu. Mais la question. Basal, c'est à quoi sert ce personnage? Et là, en fait, à chaque fois que je me pose la question, je dis à rien. C'est-à-dire qu'en fait, si tu enlèves Peter Dinklage, bon, bah c'est pas grave, quoi.
Bah si, c'est pour le plot. C'est pour qu'elle ait un alibi
pour
qu'elle aille en prison après avoir le.
Effectivement, par quelqu'un d'autre. Et à quoi sert le personnage de Denise?
C'est ça.
Bah à rien.
Mais là pour le coup, c'est ça le problème,
c'est-à-dire que comme tu l'as dit tout à l'heure mais alors c'est con hein, mais encore une fois il faut que je ressouligne, c'est-à-dire qu'en fait ça vous le voyez pas quand on voit le film. Enfin en tout cas, enfin toi peut-être tu l'as vu, le contraire, c'est plutôt enfin même si ce serait quelque chose qui serait plus visible dans un autre film, le fait que ce soit pour moi en tout cas tellement plaisant et je passe un bon ride avec tous les personnages que j'ai envie de voir, j'ai envie de voir plus de ces personnages que ça va. Après et le souci c'est encore une fois le contexte, parce que ce film, quand on te met les petites feuilles de laurier avec Filmfest ou je sais pas quoi et compagnie, et peut-être qu'il va gagner ceci comme prix, du coup tu te dis oh là là, ça va être Mademoiselle, ça va être, tu vois, t'es un autre niveau de critères, tu vois. Alors qu'en fait, non, tu t'assois, tu passes franchement une bonne heure et demie, et puis tu rentres chez toi, et puis ça s'est bien passé, mais voilà. Mais si tu commences à détailler comme tu détailles Dunkerque.
J'ai beaucoup aimé. je repense à des trucs que j'ai bien aimé. J'ai énormément aimé. Il y a un enchaînement qui est assez cool dans le film. C'est l'enchaînement qui précède la scène de violence chez le gros dentiste, comme dit Sam Rockwell. Il y a un truc qui est assez marrant, c'est que il y a Woody Harrelson, il arrive au bureau et il dit alors. Il y a Sam Rockwell, il est super content parce qu'il a eu 2 formal complaints et il a même pas pris la peine de prendre les noms. C'est juste des images. C'est le gros dentiste
attends.
La femme avec une tête chelou.
Juste pour situer, les complaints, c'est il est content parce qu'il y a des gens qui ont porté plainte. Contre le fait que Frances McDormand ait mis ses panneaux contre la police.
Ouais, voilà, c'est ça. Voilà, ce qui est marrant, c'est que c'est très vague en fait. C'est-à-dire que c'est le gros dentiste et la meuf avec genre une tête chelou ou un œil chelou. C'est comme si les gens du village avaient des nicknames par rapport à leurs problèmes, leurs malformations physiques un peu. Et j'adore la scène chez le dentiste parce qu'en fait. Ce qui est cool justement, c'est que tu sais au moment où t'es dans le cabinet que le dentiste il lui en veut à mort et je trouve que c'est assez cool la façon dont il transmet toute sa haine avec ses outils en fait. Tu sais, genre tu sens vraiment qu'il a envie de lui faire mal et je trouve ça assez rigolo genre avec cette thématique encore que j'aime bien t'as pas le droit de faire ça, le chef
ouais.
C'est un mec bien, tu sais, comme s'il y avait ce truc un petit peu tabou de comme il peut y avoir avec l'armée aux
États-Unis, c'est vraiment très présent, et spécialement pour ceux qui connaissent tous les trucs à la Friday Night Lights, etc., il y a des documentaires sur ça, sur les petites équipes de football américain dans les petites villes du Texas, où en gros, que tu emboutisses des voitures ou que tu violes même des meufs parce que t'es le quarterback du, tu vois, on va pas t'en parler. Et du coup, il y a cette espèce de, tu sais, de façon de protéger énormément ces espèces de gens qui sont hissés assez haut dans l'échelle sociale des petites communautés. Et ouais, et là, du coup, bon, Woody Harrelson, pour le coup, un peu plus à juste titre parce qu'il est vraiment sympa, lui. Mais, mais tout le monde veut le défendre, du coup.
C'est ça, et on en oublie le message en fait, et même si la scène est pas ouf, mais à un moment il y a une scène où il y a justement le mec qui va être suspect à la fin du meurtre, mais qui l'est pas, qui un petit peu avant dans le film va aller un petit peu menacer Frances McDormand dans sa boutique en lui jetant des bibelots au visage, et tu sais cette réaction de la colère engendrée par la colère, et qui où à l'arrivée les gens ne s'intéressent même plus au message, c'est juste je suis en colère parce que t'as dit du mal du shérif, quoi. Et ça, je trouvais ça assez
alors sympa, petite chose quand même d'ailleurs, pour rebondir sur le gars qui a balancé des petits bibelots à la face de Frances McDormand, c'est le même gars qui se vante d'avoir violé quelqu'un probablement en Irak, etc. Du coup, il y a une pure volonté de faire un tour de magie au spectateur. Parce qu'en fait, on utilise le même perso qu'on a vu tout à l'heure. Du coup, c'est pour que nous, on se dise « Ah, c'est probablement lui. C'est pas pour rien qu'il était venu faire chier cette maman dans son truc. » Pour tout ça, pour nous dire « Ben, en fait, c'est pas son ADN. » Donc, c'est vrai que là, on sent totalement le côté genre « Hey, je vous ai fait regarder ici. »
Et surtout qu'en fait, ce personnage, on sait absolument pas ce qu'il fout dans le trou du cul du monde de cette ville. C'est-à-dire, il vit même pas ici, il vit dans l'Idaho, à l'autre bout des États-Unis.
Ouais.
Et
bizarre,
il passe 2 semaines ici, tu sais pas pourquoi. C'est jamais dit, tu vois.
J'ai dû regarder sur Google Maps parce que j'étais là, mais attends, c'est loin normalement, l'Idaho.
Ouais.
Du coup, les gars, ils sont en voyage pendant pas mal de temps. C'est-à-dire qu'ils vont dormir dans des motels et tout ça, hein, le temps d'arriver là-bas, avant de le tuer.
C'est assez marrant cette scène d'ailleurs où il y a le nouveau commissaire qui essaie de faire comprendre, parce que quand même il a un petit peu de sympathie pour lui. Il dit putain, il est con lui, mais j'ai quand même un petit peu envie de l'aider. Où il essaie de lui faire comprendre avec que c'est un pays où il y a du sable. Tu sais, c'est Sandy, et puis il dit non, ça m'aide pas en fait, je vois pas du tout. Il y a un truc assez marrant d'essayer d'aider l'abruti un peu. C'était cool. Moi, le dernier truc que je rajouterais, c'est que je sais pas si ça vient du fait que le personnage est raté, le personnage de la nouvelle petite copine de 19 ans de l'ex-mari de Frances McDormand. Moi, cette situation, j'y crois pas. En fait, j'arrive pas à y croire. Je sais pas, il y a quelque chose de en bizarre fait, qui fait que
on nous montre
c'est bizarre.
Pourquoi elle a été attirée par ce type, quoi.
Voilà, c'est ça. Et du coup, voilà, j'ai trouvé ce personnage d'une nullité
Et petit
absolue.
Truc bizarre qui montre qu'il écrit pas du point de vue des personnages, c'est à un moment donné, en fait, elle est au restaurant donc avec Peter Dinklage, Frances McDormand, et elle voit son ex-mari avec sa nouvelle copine de 19 ans qui rentre, et elle doit expliquer à Peter Dinklage, c'est mon mari et sa copine de 19 ans, et c'est tout ce qu'il lui dit. Et après, le mari vient à la table pour parler et il essaie de faire une leçon de morale de Frances McDormand, et il a dit, ma copine m'a dit justement cette phrase que tu disais tout à l'heure, violence begets violence. Et à ce moment-là, il y a Peter Dinklage qui fait,
bigots.
Elle a dit bigots, mais de l'air de dire, parce que je la connais et elle est conne. Je veux dire, il vient de la voir, il ne sait pas, absolument pas qui est ce personnage.
Oui, oui.
Ouais.
Tu vois ce que je veux dire, c'est très bizarre
non,
en fait.
Oui, non, c'est sous-entendu c'est parce qu'elle a l'air conne.
Oui.
D'ailleurs,
oui,
moi je trouve
oui.
que le dialogue.
D'accord, donc en fait, il est con et intolérant.
Bah c'est possible. Non mais par contre, le dialogue.
Ouais, mais tu vois, là tu essaies de trouver
non,
des
mais
excuses.
Le dialogue
film,
qui
alors
après...
c'est juste le mec en fait, il a écrit ce dialogue comme ça et qui se fout
le
des
dialogue
personnages
qui est après, il est vraiment trop drôle parce que quand elle dit ah non, mais c'est pas de moi, bien sûr, j'aurais jamais dit une expression comme ça. Je l'ai lu dans un livre sur la polio, et t'es là, tu fais, et là, non, mais
c'est des livres sur la polio
fait, ah, mais en fait, elle est pas conne, en fait, elle lit un bouquin, et là, revirement pour dire, attends, celui avec les chevaux, c'est le polo ou la polio? Là, je trouve que c'est trop drôle parce que le gars veut absolument
c'est
faire
trop
une
drôle,
espèce
ça.
De montagne russe sur ce que tu projette ouais. sur la personne.
Excuse-moi, je suis renchéri, mais qui lit des livres sur le polo aussi, quoi.
Pareil, tu vois, sur ce personnage, c'est beaucoup trop.
C'est gagueux.
C'est un trait, quoi.
Complètement gagueux.
Elle est conne. Elle est belle, elle est conne, quoi. Ok, merci. J'avais jamais vu un personnage comme ça.
Jamais. Ça.
Jamais.
Est-ce que vous avez vu d'autres films cette semaine ou ces derniers temps là ? C'est vrai que bah ouais, je pense.
On enchaîne,
non,
c'est ça ?
Écoute.
Ouais, carrément.
Carrément. Écoute, moi j'en ai vu quelques-uns qui m'ont pas. Peut-être que vous les avez vus aussi. Alors récemment, j'ai vu Tout l'argent du monde de Ridley Scott.
Ouais, je l'ai vu aussi. On en a parlé vite fait la semaine dernière.
Ah oui, c'est vrai. On en avait parlé. Non, mais c'est vraiment marrant ce film parce que j'ai l'impression qu'il y avait un truc génial dans ce film et c'est le personnage de Paul Getty. Et ce personnage, en fait, la manière dont il est présenté, je te jure, on dirait qu'il est extrait d'une BD de Picsou, en fait. Il y a quelque chose, tu vois, de très bande dessinée qui est assez intéressant, tu vois, où c'est l'avarice à son dernier degré qui en devient drôle. C'est un truc assez marrant. Et à côté de ça, il y a cette histoire d'enlèvement, en fait, qui révèle absolument rien de la personnalité de ce personnage. En fait, j'ai l'impression qu'il y a plusieurs films en parallèle. Il y a un film d'une mère qui recherche son enfant qui a été enlevé. Il y a Balthazar Picsou et il y a un film sur Romain Duris qui joue le kidnappeur de l'enfant et qui s'attache en fait l'enfant qu'il a kidnappé.
Il y a mille trucs en même temps en fait.
Et en fait, ces trois films, je trouve, ne se rencontrent jamais en fait. T'as l'impression, et pour moi, il y en a deux qui sont pas très très intéressants, tous les trucs sur l'enlèvement. Et en fait, j'ai passé le film à attendre que Christopher Plummer revienne en fait. Je sais pas si ça t'a fait ça aussi, Jean-Yves.
Ouais, un petit peu. Alors moi ce film j'ai été vraiment absorbé juste par le côté technique en fait d'avoir effacé Kevin Spacey.
C'est vrai.
Mais au-delà de ça, je l'ai trouvé très banal comme film dans voilà tout ce que ça veut dire et dans son esthétique. Donc voilà. Donc en fait finalement je suis en train de me dire que s'il n'y avait pas eu cette incidence Spacey, ce film, je l'aurais trouvé complètement anecdotique, quoi.
Ouais, ouais.
Ok. Voilà.
Et ensuite, j'ai vu... Tu l'as vu, toi?
Non, je ne l'ai pas vu. De toute façon, ouais. Okay. Ridley Scott, maintenant, hein, qu'est-ce que tu veux?
Et alors, j'ai vu le grand jeu d'Aaron Sorkin aussi, avec Jessica Chastain. Écoute, c'est très mal réalisé. C'est pas un bon réalisateur. Après moi j'aime bien l'écriture d'Aaron Sorkin. Ça m'a fait révéler malgré tout, parce que réaliser un peu à la va-vite ça ressort beaucoup plus. Ça m'a fait réaliser sur quelque chose sur l'écriture de Aaron Sorkin que je trouve pas déplaisant, mais qui change un petit peu de ce dont on parle d'habitude. Tu sais quand on dit un personnage bien écrit ou les trucs comme ça, c'est un peu ce qu'on a dit sur Martin McDonagh à propos des dialogues. J'ai l'impression qu'il y a trois types de personnages dans les scénarios d'Aaron Sorkin. Il y a Aaron Sorkin, intelligent, brillant, avec une vision du monde formidable et à sortir des petits traits d'esprit formidables, tu vois, en permanence. Il y a beaucoup de personnages comme ça dans les scénarios d'Aaron Sorkin. Le deuxième type de personnage, c'est les admirateurs d'Aaron Sorkin, ceux qui regardent le personnage en train de dire ça et qui font « Waouh, il est trop fort ». Et le troisième type de personnage, c'est les victimes d'Aaron Sorkin, sur lesquelles la logorée d'Aaron Sorkin se déverse et qui ne répondent de rien parce que Aaron Sorkin est seul face à lui-même dans le scénario à créer des hommes de paille contre lesquels il se bat, en fait, tu vois. Et il y a quelque chose comme ça.
Ce qui est totalement cristallisé, si vous voulez voir, elle traîne beaucoup sur YouTube, c'est la première scène de la série The Newsroom, où Jeff Daniels fait un rant comme ça de Aaron Sorkin. Donc c'est une série qui est créée par Aaron Sorkin. Et je pense que tu vois tous ces personnages là si vous voulez le voir en une scène. T'as ça, le public qui est la victime, lui qui est supérieur, et d'autres personnes qui font ah ouais, c'est notre boss, il est fort quand même.
Mais malgré tout, il y a quelque chose de plaisant parce que c'est un type assez intelligent et malgré tout, je prends plaisir, tu vois, à assister à ça. Il y a quand même quelque chose de. Et donc, le film est comme ça et je dois t'avouer que passer 2 heures en compagnie de Jessica Chastain, c'est pas.
D'accord, mais c'est pas un truc qui est totalement foiré non plus, on est d'accord. Parce qu'en fait. D'accord.
Non, c'est pas complètement. Non.
Parce qu'en fait, il y avait cette peur de vraiment avoir, tu sais, un de ces films qui veut trop en tacler et qu'au final, il. Bah, il tombe un peu trop court, quoi, mais ok, d'accord, moi je verrai.
Ouais, c'est sympa. Alors, il y a Michael Cera qui est vachement bien dans le film aussi.
Très bien.
Voilà.
Ça me permet de faire un segue très rapidement sur, je vais pas en parler longtemps, mais ce que tu dis, c'est récemment, ça a été une des grosses déceptions de 2017 aussi. C'était le film Wind River qui était écrit et réalisé justement par un scénariste de Villeneuve qui avait notamment écrit Sicario. Et c'était aussi un exemple de voir que c'est une preuve assez intéressante de voir que un bon scénariste ne fait pas forcément un bon réalisateur. Et clairement, c'est clairement le cas sur ce film. Moi, j'ai envie de parler d'un film que j'ai vu en retard aussi. Et c'est pas plus mal parce que ça m'aurait donné beaucoup de encore plus de mal pour mon top 10. C'est un film qui était dans le top 10 d'Areski qui est The Big Sick, que j'ai absolument adoré. C'est-à-dire que j'ai été complètement cueilli par le film parce que du coup justement le fait que ça fait pas mal d'années qu'il y a énormément de tentatives d'imitation Judd Apatow, là pour le coup j'ai vraiment eu l'impression de revenir à l'âge d'or d'Apatow en termes de rendu. On marche un peu dans les traces de Funny People, on est vraiment dans un film qui joue sur tous les registres avec une délicatesse et une sensibilité extrême. Ça passe des rires aux larmes, mais avec d'une précision chirurgicale, quoi. Les personnages sont super. Il y a quelque chose en fait dans ce film où le personnage principal est un Américain d'origine pakistanaise qui fait du stand-up et qui doit gérer la pression familiale d'épouser une Pakistanaise. Et ça, je trouve que les scènes de famille sont absolument mais ouf, quoi. Il y a des trucs très drôles. Et ce que j'ai vraiment aimé, c'est vraiment le souci du détail comique, en fait, le détail comique dans le placement et dans les personnages, même plus les personnages secondaires, mais les personnages complètement ultra annexes. Et je sais pas si tu te rappelles, Areski, mais il y a des petits personnages très drôles comme le personnage du colocataire, en fait, qui est le gros boulet, en fait, et le gars qui est pas drôle et qui est nul, mais qui, à chaque fois qu'il a une apparition dans le film, ça va déclencher une scène assez drôle. Il y a une scène qui est absolument géniale, qui est la scène à l'hôpital où le personnage principal va voir pour la première fois ses beaux-parents. Et c'est assez intéressant parce que découvrir ce thème ça aborde un petit peu le thème du racisme ordinaire de façon assez cool, parce que déjà dans un hôpital t'es dans un endroit où il n'y a plus aucun filtre et ça va avoir cette incidence là et finalement on va découvrir sans spoiler que finalement il y a une énorme tension et en fait tu te rends compte que c'est pas du tout parce qu'ils sont racistes qu'ils aiment pas ce gars, mais c'est pour d'autres raisons et c'est assez cool. Très très marrant là, des moments aussi où il y a son frère qui va aller le voir au théâtre avec des lunettes de soleil pour pas qu'on le repère, tu sais, ou des petits trucs comme ça. Donc vraiment c'est un film que j'ai trouvé exceptionnel parce que aussi je suis très client de ce genre de comédie. C'est un film qui se veut comédie sentimentale, mais vraie comédie drôle aussi. Il y a des blagues géniales sur ce que c'est que d'être pris pour un terroriste aux États-Unis. C'est-à-dire qu'il y a des blagues sur le 11 septembre. Il y a beaucoup de blagues sur le 11 septembre qui sont très très drôles. Donc vraiment, c'est un film qui m'a énormément réjoui, que je conseille à tout le monde. Il est en VOD, disponible. Vraiment, courez-y pour le bon moment comédie du samedi soir. Et juste un autre petit film qui est un film qui remonte un peu, donc j'en parlerai pas beaucoup. C'est un film qui est très sympa. Un film qui s'appelle Cheap Thrills. Je sais pas si vous l'avez vu. Un tout petit film de 2013 qui est un espèce de huis clos. Donc le pitch, c'est un mec qui est mécano, genre on te surexpose la grosse vie de merde, genre le gars le même jour on voit qu'il habite dans un motel avec sa femme et son enfant, il y a une notice d'expulsion imminente, il perd son boulot, donc il va se saouler la gueule dans un bar miteux. Là il tombe sur un ancien pote à lui. Et ils vont en fait essayer de passer une soirée à boire des shots avec un couple un petit peu bizarre, à se faire des challenges. Genre, tu sais, typiquement la soirée où les gars disent « Vas-y, je te file $200 si tu bois la bouteille cul sec, etc. » Et de là, ça se développe un petit peu et c'est assez cool en fait. C'est-à-dire, c'est un petit huis clos ultra tendu. Et j'ai trouvé ça très très bien. Donc Cheap Thrills, film qui est peut-être pas facile à trouver parce qu'il est pas sorti en France, mais très bon, très très bon petit, okay. Petit bon, film. Bah, voilà.
À voir du coup, parce que c'est vrai que oui, c'est un film de 2013, donc je pense que je sais pas s'il y a une plateforme qui le passe.
Ça fait un moment que j'en entends parler qu'il est dans quelques tops de gens de
ouais, petit
le
film
petit
sympa.
Film
ouais.
petit film indépendant que t'attends pas okay. donc il... voilà okay. exactement.
Moi dernièrement j'étais dans ma recherche après avoir vu de Runaway Jury, j'étais dans ma recherche de ces vieux films de barreaux, j'ai envie de dire ce truc avec des avocats, tu sais, et le feeling de je objection votre honneur, tu vois, le truc avec Tom Cruise, etc. Et je me suis rendu compte qu'il y en avait un que j'avais pas vu, qui s'appelle The Rainmaker, qui était réalisé par Francis Ford Coppola, et donc pareil, tiré d'un roman de John Grisham. Et ben, c'est pas très bien. C'est pas un très bon film. En fait, il est sorti en 97, mais en fait, il était déjà un peu vieux en 97. Ça a vraiment le feeling d'un truc des années 80. C'est pas, c'est très bizarre. On parlait tout à l'heure d'arc narratif qui était commencé et pas terminé. Là, en fait, il y a des arcs narratifs parallèles à l'histoire principale, mais qui ne servent à rien du tout. C'est-à-dire que ça ne t'apprend pas plus de choses sur Matt Damon qui joue le protagoniste. Juste, c'est là pour être sûr que quand il aura fini l'arc principal, il aura une petite amie à la fin. C'est tout. Genre, c'est vraiment que ça, où il y a d'autres choses où c'est pareil, où il y a un personnage de Mickey Rourke qui est peint comme genre une espèce de requin, un avocat qui a crossé toutes les lignes et qui doit se cacher aux Bahamas maintenant. Et en fait, c'est un personnage qui ne sert à rien du tout pendant le film. Donc voilà, c'est un peu bizarre. Mais, je vais toujours finir mes phrases comme ça, en fait, pour les films. Mais c'est quand même assez plaisant. Parce qu'il y a Danny DeVito, Matt Damon, etc. Et qu'on est toujours un peu pris par ces histoires de personnes qui veulent... de David contre Goliath, en gros, puisque là l'histoire principale c'est tout simplement d'attaquer en justice une grande assurance qui ne paye jamais, quels que soient les sinistres. Donc voilà, c'est ça,
la méchante assurance.
C'est tout ce que j'ai à dire pour The Rainmaker, si jamais vous le voyez gratuitement, j'ai envie de dire.
Alors, si tu les as pas vus, moi il y a deux films de Barreau que j'adore. C'est il y en a un de Billy Wilder qui s'appelle Witness ouais. for the Prosecution avec Charlton et Marlène Dietrich, qui est je crois qui est là pour le coup un des films de Barreau les plus jouissifs, parce que le personnage joué par Charlton, c'est un espèce, tu sais, t'as le même plaisir que quand tu lis un Sherlock Holmes, ce plaisir de la supériorité ouais. du personnage qui il y a quelque chose de super. Sinon il y en a un autre de Otto Preminger. Ouais, ou là, Aaron Sorkin. Il y en a un autre de Otto Preminger que j'adore, c'est Anatomy of a Murder, Autopsie d'un meurtre.
Sinon, il y en a un petit sympa avec Henry Fonda qui s'appelle 12 hommes en colère, voilà, si tu l'as vu.
Ouais, sans blague.
Et vrai. Le petit segue par rapport à ce que tu parlais de Matt Damon, ça me permet de vous demander, est-ce que vous avez vu Downsizing ou pas?
Ah, voilà, non, je voulais pas savoir encore.
Ce que ça pas encore, non.
Non, mais justement, je voulais savoir ce que ça valait. Si je savais pas, ouais. J'hésitais à aller le voir. Je sais pas trop si je vais voir.
Ouais, je... Je pense que j'aimerais bien. Ouais, non, j'aimerais quand même bien le voir, ce film. Je pense qu'il est intéressant, même si j'ai écrit un truc en ce moment sur Matt Damon. Le fait, tu sais, il a parlé de tous les trucs de discrimination sexuelle. Matt Damon, en gros, pour dire not all men, tu vois, not all men are rapists, tu vois. Et donc tout le monde lui est un peu tombé dessus. Et que je m'imaginais en fait le producteur de Downsizing en train de se dire putain, tout ce que t'avais à faire, c'est juste fermer ta gueule, quoi. Juste être là et dire non mais c'était génial de jouer avec ces personnes-là et tout ça, et c'est tout ce que t'as à faire en promo, et pourquoi.
En plus, elle est con, sa remarque, parce que c'est vraiment, on sent vraiment le gars qui cherche la merde, quoi. Enfin, t'as entendu ce qu'il a dit?
Alors, j'ai pas l'intitulé la foule, mais en gros, le mec, c'était pour dire, genre, je prêche pour ma paroisse, genre, moi,
non,
je fais partie
des bons.
En gros,
ce qu'il a dit, c'est ça va, c'est mettre une main aux fesses, c'est pas comme violer des petites filles, quoi. Enfin, je veux dire, c'est
alors,
ça...
Ouais, ouais. Que je disais, c'était la grosse remarque
ouais,
de
ça.
Bostonien, d'ailleurs, ça, tu vois. Genre, c'est pas les prêtres, ok. C'est juste, on met une petite main aux fesses comme ça dans un pub de Boston.
J'en profite pour dire aussi, parce que tout à l'heure, vite fait, pendant que tu demandais les news, je regardais vite fait les sorties Blu-ray, et là sort en Blu-ray un film que j'ai beaucoup aimé en 2017 qui s'appelle Petit Paysan. Voilà, un petit film français sympa. Donc voilà. c'est bien, hein.
Ah, qui est super,
qui
ouais,
est vraiment bien parce que ouais. je trouve très très malin dans le sens où il arrive à transformer ça une petite histoire de ferme en thriller en fait. Je trouve ça très très cool. C'est un très bon petit film.
Ok. Très bien. Et sinon, peut-être juste rapidement pour finir, j'ai quasiment fini la saison 4 de Black Mirror, qui je trouve
très décevante,
un petit peu
je trouve.
En dessous. Des autres, spécialement de la 3, qui était vraiment vraiment excellente.
J'adore l'épisode 1.
Bon, il y a quelques pépites,
génial,
cela dit.
L'épisode 1 dans le il est
épisode
très,
1
cool.
ouais on pourra en parler peut-être. Je trouve que la fin un petit peu facile, mais enfin bon, en général ils sont plutôt sympas. Moi je vais être très fan de The Black Museum. Au final je préfère un épisode qui est très con de la crypte.
Alors c'est peut-être le seul avantage que je vois à cet épisode, c'est justement que finalement moi ce que je reprocherais au truc Black Mirror, c'est que ce sont de très bonnes idées, mais c'est tout. C'est-à-dire qu'il n'y a rien dans la mise en scène qui va te faire waouh, tu vois. Et justement, à la limite, ce truc de Black Museum, ça en devient à la limite série Z, en fait. Tu vois? C'est-à-dire que, et finalement, oui. C'est peut-être, mais je trouve ça assez ironique parce que je pense pas que ce soit voulu, en fait. C'est juste que c'est fait, je pense que c'est
tu
fait à la va-vite, quoi, tu vois. Mais moi, ce que je suis quand même très déçu, c'est-à-dire que moi, j'ai l'impression que depuis que Black Mirror est passé sous giron américain, il y a pas le gritty de la saison 1, quoi. Il y a pas le, c'est-à-dire que les premiers épisodes étaient quand même très, 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 très gritty, très cool. Là, maintenant, c'est devenu limite, on traite la dystopie de façon très pop, finalement, tu vois. Donc voilà, très, très, moi aussi, pareil, j'attendais beaucoup de cette saison 4 et j'ai quasiment oublié les épisodes, en fait, tu vois. C'est-à-dire que même l'épisode qui est sympa avec le chien mécanique, là, en noir et blanc,
Est-ce que je
peux rajouter quelque chose?
Ouais.
Donc Areski a trouvé le temps de voir la
sûr.
Saison 4
j'étais
de Black Mirror, mais il n'a toujours pas vu la voilà. saison 3 de Twin Peaks.
C'est un peu scandaleux.
Si je le dis suffisamment, il va finir par la regarder.
Mais en fait, ouais, mon jeu maintenant, ça va être
de
faire retenir
ce
gimmick
ce
pendant des
propose,
années.
Ce que je te propose, Areski, c'est pour te vendre le truc, c'est que ce qu'on pourrait faire à la limite, si quand on se voit, c'est qu'on fasse des épisodes de fin de séance live devant Twin Peaks, en fait, c'est pour être sympa. Voilà, de te forcer à regarder
devant Twin Peaks. On met des casques pour écouter les trucs.
J'ai pensé à toi d'ailleurs devant The Big Sick, parce que dans The Big Sick, il y a une scène qui est So Areski Sugar. C'est le gars, en fait, son move quand il date, il montre des films à son date, voir si elle aime le film. Et genre, il y a le gars, il joue trop bien le gars qui regarde son pote en train de regarder le film. Et ça, c'est So Areski Sugar. Donc voilà, c'était le petit clin d'œil. Non mais regarde,
dès qu'il mange du popcorn en regardant le visage de quelqu'un.
Film, mais non mais arrête, qu'est-ce que tu fais? Non mais regarde le film, continue.
Il va se passer quelque chose de bien.
Ah non, ça c'est horrible. C'est les pires personnes qui existent au monde, c'est qui disent attends, tu vas voir là ça va être trop bien. Ça franchement, tu m'as spoilé, j'éteins, je rentre chez moi. Bon. Je crois qu'on a fini cette semaine, on a tout dit. Bon, de toute façon, on se revoit la semaine prochaine. Je sais pas du tout quel film on pourrait regarder. Je pense qu'on va décider.
Moi, je sais quel film on va regarder la semaine
tu
prochaine.
Tu le sais.
Et
t'as envie de le dire.
Steven Spielberg.
Ah oui, exact.
Et moi, je suis complètement d'accord pour ça. Et pour la déconne, je pense que ça peut être sympa. Pour la déconne, moi, j'irai voir le nouveau Liam Neeson qui se passe dans un train. Parce qu'en fait,
je te promets pas.
Alors, pour la déconne, je vais dire que je l'ai vu, mais en fait je l'aurais pas vu, et on va voir si j'arrive quand même à suivre une discussion avec avec Jean-Yves pour faire ouais. J'ai aussi beaucoup aimé quand Liam Neeson il a tué des terroristes, c'était bien. Ah ouais, exact.
Non mais en fait c'est trop bien parce que j'ai vu une interview de Liam Neeson qui fait la promo de ce film, et ce qui est génial c'est que moi j'ai beaucoup d'affection pour Liam Neeson, et en fait il fait le bon papy, tu sais, et toute l'interview tourne autour du fait que mais pourquoi Liam, pourquoi les gens paient pour aller te voir faire de l'action dans des films, et en fait Je sais pas s'il joue la comédie, mais ça a l'air tellement sincère la façon à laquelle il dit. Mais je sais pas en fait. J'ai l'impression que les gens n'ont pas encore compris que c'est une supercherie, mais moi je continue parce que voilà, mais je comprends pas pourquoi les gens font ça. Et il raconte une discussion qu'il a avec Anthony Hopkins, puisque Anthony Hopkins c'est un peu la même chose, mais pour le thriller psychologique, tu sais, on l'utilise à mort. Et pareil, ouais. Ils sont là en mode déconne, en mode. Est-ce que tu t'es fait découvrir ou pas? Non. Bah donc, toujours moi non plus, toujours pas. Donc je continue. Donc tu vois, je vais aller voir ça avec beaucoup de d'humour en mode il a fait l'avion, il a fait la voiture, maintenant il faut le mettre dans un train, tu sais. Tous les moyens de transport.
Après ils vont faire une suite à ça, ce qui paraît, ça va être sur un libre.
C'est
quelqu'un de kidnappé.
Ah, j'ai une idée de film avec Liam Neeson, ça s'appelle Deliver Room.
Il y a quelqu'un qui est en fait qui est caché dans, tu sais, leur sac cubique là.
Dans les cubes là.
Voilà, c'est ça, c'est un enfant. Bon, allez, à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.
Cheers.
Allez, bisous.
Bon, t'as